spectacle divers et varié, avec une équipe sympathique, vraiment au taquet qu'on veut pour ce festival, quoi.
Eh ben c'est bien ça l'essentiel, c'est que ce soit sympathique et que chacun y puisse trouver son bonheur. Des spectacles, comme tu le disais, des animations, de quoi se restaurer et de quoi passer la journée sur les étangs d'Anville notamment. C'est ça l'objet du Festiton, bien entendu, qui vous attend ce samedi 4 et ce dimanche 5 juillet à l'occasion de la 10e édition. Et rappelons-le, festival gratuit.
Oui, festival ça, entièrement. On dit gratuit, mais gratuit, oui et non. On veut pas dire gratuit, nous on le marque pas, même si c'est réel. Pourquoi ? Parce que rien n'est gratuit. Nous on a dû s'investir, les bénévoles s'investissent et c'est pas gratuit leur temps. Alors gratuit si vous voulez bien, mais venez parce qu'en fait c'est pas gratuit. Il va falloir que vous vous déplaciez, il va falloir que vous fassiez des fois peut-être l'effort de venir. Et à ce festival, juste pour dire, le festival se passe entre la mairie et les étangs. Faut pas oublier, entre la mairie
c'est
et les étangs.
C'est un spectacle de rue. Merci beaucoup Olivier d'être passé par notre micro. Rendez-vous le 4 et le 5 à Danville. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Merci JC.
Radio France Internationale, 9h à Paris, 7h à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
Martin Guez, ascenseur émotionnel pour le Sénégal qui a touché vraiment du bout des doigts un bel exploit.
Et les fans des Lions se pincent pour y croire ce matin, alors qu'hier soir, à 4 minutes de la fin du match, leurs joueurs menaient encore 2-0 face à la Belgique en 16e de finale de la Coupe du Monde. Et difficile à expliquer, mais ce sont bien les Diables Rouges qui l'ont finalement emporté 3-2. Un 16e de finale que vous avez pu vivre sur RFI, sur les antennes Afrique avec Cédric de Oliveira, qui reviendra sur cette affiche riche en rebondissements dès le début de ce journal. Nous serons ensuite auprès des soignants, ceux du sud du Liban, qui continuent coûte que coûte leurs activités malgré la guerre et les bombardements israéliens qui ont lieu depuis le début du mois de mars. Et puis ceux du Venezuela aussi qui s'activent encore pour retrouver des survivants dans les gravats une semaine après le terrible double séisme qui a frappé le pays. Gros plan ensuite sur ces élections législatives rares en Algérie, les premières depuis le mouvement du Irak en 2019. Un scrutin qui n'emballe pas grand monde, nous le verrons. Et puis enfin, chanceux sont ceux qui ont reçu leur petit carton d'invitation pour le mariage de Taylor Swift. La superstar de la pop américaine se marie aujourd'hui à New York et elle a vu les choses en grand.
Diabolique pour les Lions sénégalais qui ont touché du bout des griffes les huitièmes de finale.
Face à des Diables Rouges belges bien palous, les Lions y étaient presque deux buts d'avance et plus que quelques secondes au chrono. Habib Diarra et Ismaël Assar, le meilleur joueur sénégalais de cette Coupe du Monde, avaient mis leur équipe sur de bons rails, mais à la 86e minute, patatras, un premier but de Romelu Lukaku, suivi d'un deuxième de Youri Tielemans. Et au bout du bout des prolongations, c'est le drame pour le Sénégal. Un pénalty du même Tielemans réussi à la 125e minute. Une remontada de 2-0 à 3-2 qui envoie la Belgique en 8e. Et les joueurs de Pape Thiao à leur doute. Envoyé spécial de RFI à Seattle, Cédric de Oliveira.
Un gâchis incompréhensible, invraisemblable. Le Sénégal s'est sabordé face à la Belgique. Et juste après le match, Moussa Niakhaté, le défenseur, était totalement abattu par ce scénario renversant.
Je sais pas trop quoi dire. Et nous, on est dévastés par le vestiaire. On a tout donné. Bien sûr qu'il y a des erreurs de fait. On n'a pas été à la hauteur, tout simplement.
Et pourtant, les Lions, durant la majeure partie du match, ont dominé les Belges, marquant deux fois par Habib Diarra et Ismaël Assar après un numéro admirable. Mais les joueurs du sélectionneur Pape Thiao ont tout gâché dans les derniers instants.
On était bien, on menait 2-0. Mais maintenant, le match ne dure pas 85 minutes. Malheureusement, on n'a pas pu gérer derrière.
C'est un euphémisme. Les Belges, impuissants jusqu'alors, ont profité de l'apathie de la défense sénégalaise pour marquer grâce à Lukaku et Tielemans avant la prolongation et un pénalty du capitaine belge à la 125e minute. Défaite 3-2, difficile à expliquer pour Idrissa Gueye.
Il se passe rien parce que les buts, c'est pas des actions. On sait pas à l'expliquer. Ça devait être comme ça et c'est comme ça. On comprend pas, personne comprend. Et voilà, pour le moment, faut juste rentrer tranquillement. Et puis, ouais, c'est dur, c'est dur.
Après une finale de la CAN déjà rocambolesque, il va falloir digérer cette nouvelle déception et entamer un changement de cycle. La génération Sadio Mané a sans doute disputé sa dernière grande compétition internationale. Cédric de Oliveira, Seattle, RFI.
Une défaite qui laissera des traces. Il y a déjà du grabuge dans la tanière. Le milieu Pape Gueye, unique buteur de la finale de la dernière CAN face au Maroc, a annoncé qu'il ne reviendrait plus en équipe nationale tant que l'actuel staff sénégalais serait en place. Puis une autre défaite, un autre traumatisme vécu cette fois-ci par la RDC, qui a plus que tenu tête à l'Angleterre, idéalement lancée par Brian Sipengal et Léopard. ont mené pendant plus d'une heure avant de s'écrouler sur un doublé d'Harry Kane, défaite 2-1. Les Anglais qui joueront le Mexique en 8e de finale et la Belgique qui affrontera les États-Unis, vainqueur 2-0 de la Bosnie tout à l'heure.
Après Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense enfonce le clou, l'armée israélienne prend racine au Liban.
Le premier ministre israélien qui avait annoncé que l'état hébreu ne comptait pas bouger du sud du Liban, Israël Katz confirme, l'armée israélienne restera pour une durée indéterminée dans ce qu'elle qualifie de zone de sécurité, que cela soit dans la bande de Gaza, en Syrie ou encore au Liban. Le Liban où les frappes de l'armée israélienne ont fait plus de 4200 morts depuis le début de la guerre avec le Hezbollah le 2 mars dernier, une guerre qui a considérablement affaibli le système de santé libanais, d'abord sur le plan humain car au moins 135 soignants ont été tués dans des frappes, principalement des secouristes, et puis les hôpitaux aussi ont été endommagés, mais ils continuent de fonctionner et de soigner les blessés, exemple à Tir et à Tibnin, deux établissements sur la ligne de front où s'est rendue notre correspondante Amélie David.
Un drone israélien bourdonne au-dessus de l'hôpital de Tibnin. L'établissement porte encore les stigmates de la guerre, comme l'explique le chef des urgences, le docteur Samir Sweden.
Nous avons besoin de reconstruire, de réparer les bâtiments, de remplacer les équipements détruits et d'apporter un soutien psychologique au personnel qui est resté ici. Je vous l'ai dit, il y a eu 17 frappes proches de l'hôpital. Certains employés ont été blessés pendant les bombardements, y compris des médecins.
À une trentaine de kilomètres de là, à Tir, l'hôpital Hiram a lui aussi payé un lourd tribut. Deux infirmiers ont été tués et plusieurs autres membres du personnel ont été blessés. Bilal Kdeish, infirmier en chef.
Heureusement, cette période est passée. Maintenant, nous essayons de nous reconstruire, de nous remettre aussi sur le plan émotionnel. Je le répète, notre personnel a encore besoin de soutien aujourd'hui. Ils ont besoin d'une prise en charge psychologique. Beaucoup rencontrent aussi des difficultés financières. Certains ont même perdu leur voiture simplement parce qu'ils venaient travailler.
Entre les vitres brisées, les équipements détruits et les traumatismes encore bien présents, la guerre continue de peser sur le quotidien des hôpitaux du sud Liban. Amélie David, Tibnin, RFI.
L'actualité au Moyen-Orient, c'est aussi cette annonce ce matin du médiateur qatarien, alors que des discussions techniques et indirectes ont eu lieu hier à Doha entre les États-Unis et l'Iran. Des pourparlers qui reprendront après les funérailles d'Ali Khamenei, fait savoir le Qatar qui fait état de progrès positifs, alors que l'Iran a annoncé qu'un canal de communication entre Téhéran et Washington sera mis en place ce jeudi pour signaler et recenser toute éventuelle violation du protocole d'accord.
Les sauveteurs font des miracles au Venezuela et espèrent toujours, Martin, retrouver des survivants.
Alors que le bilan du double séisme de la semaine passée s'élève à plus de 2300 morts et qu'il y a plus de 50 000 disparus, hier les secours ont pu retrouver un enfant de 3 ans bloqué dans les décombres. Actuellement, ils sont plusieurs centaines venus de 7 pays différents à déblayer sans relâche pour secourir un homme de 43 ans. Ça se passe dans l'état de La Guaira, dans le nord du pays. Des pompiers chiliens viennent de publier sur Instagram une vidéo de l'homme bloqué dans sa guérite, mais désormais à portée de main. Si l'espoir de retrouver des survivants est faible, les équipes humanitaires ne relâchent pas leurs efforts. Et Véronique Duroux est membre de l'équipe des Nations Unies chargée de l'évaluation et de la coordination en cas de catastrophe déployée au Venezuela.
Avec la magnitude en fait des deux séismes, les canalisations en général n'ont pas tenu. Et je parle que évidemment des bâtiments et des édifices qui ont tenu le coup. Donc soit les gens sont partis parce qu'ils ont tout perdu, soit ils restent chez eux mais n'ont pas accès à l'eau, pas d'installation sanitaire, donc c'est extrêmement compliqué. On n'a pas de déclaration d'épidémie ou quoi que ce soit, mais c'est un souci. Donc il y a un gros travail de prévention qui est fait avec les autorités et avec tous les organismes internationaux qui sont ici, dont les Nations Unies. Actuellement, le chiffre officiel, c'est 38 hôpitaux qui ont été touchés dans cette zone. Donc la santé est vraiment un gros souci actuellement. D'abord pour évidemment soigner les personnes qui ont été touchées à la suite des tremblements de terre, mais également les soins de santé habituels que l'on connaît pour pouvoir gérer différentes situations.
Des propos recueillis par Sarah Krakowicz, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé ce matin une semaine de deuil national dans le pays en hommage à la mémoire des victimes.
À Alger où se tiennent aujourd'hui des élections législatives attendues de longue date.
Ah oui, Andréane, les premières depuis la fin du Irak, ce mouvement de protestation populaire né en 2019 pour s'opposer à l'époque au cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, le pays est dirigé par Abdelmadjid Tebboune et les électeurs du pays sont appelés à renouveler les représentants de l'Assemblée populaire nationale qui compte 407 membres élus pour 5 ans. Et gros plan sur ces élections législatives ce matin avec Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI. Bonjour Ouda.
Bonjour.
Des années d'attente donc, qu'on pourrait penser que ces élections sont très attendues par les Algériens. Eh bien, pas vraiment. Vous nous dites qu'elles ne suscitent que très peu d'intérêt.
Effectivement, les partis politiques de l'opposition sont le premier à le dire. Ce sont des législatives pâles qui ne suscitent aucunement l'intérêt des électeurs et qui ont été vidées de leur contenu. Ces partis ont d'ailleurs été contraints de remplacer leurs principaux candidats sur les listes à la dernière minute. Leurs candidatures ont été invalidées sans raison juridique valable par l'ANI, l'Autorité nationale indépendante des élections. Les invalidés forment un tiers de l'ensemble des candidats. À défaut d'une offre politique réellement diversifiée, l'Algérie se dirige, selon plusieurs observateurs, vers plus d'inertie dans la vie politique et l'Assemblée en sortira affaiblie.
Et on le comprend, Ouda, le véritable enjeu de ce scrutin, c'est le taux de participation et il s'annonce très limité.
Oui, la population algérienne qui a largement participé au Hirak de 2019 aspirait à avoir d'autres visages, plus jeunes, plus dynamiques, pour la représenter à l'Assemblée. Mais au lieu de cela, ce sont les mêmes visages qui réapparaissent menés par une vieille garde qui s'accroche au pouvoir et qui, durant le mandat du président Tebboune, était confrontée à l'oppression. Ce sont donc les mêmes noms qui reviennent, les mêmes partis qui se plient à la volonté du pouvoir, même pour les législatives.
participatif.
Tout est prêt techniquement pour que les émissions aient lieu. Les autorités peuvent évidemment décider ou bien de nous brouiller ou même de nous arrêter. Dans ces cas-là, nous ne faisons évidemment pas le poids, mais pour plein de raisons, il n'est pas sûr qu'ils le fassent.
Principe actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Je ne me posais plus de questions. Ma tic 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 nique un parabla, blaca, blaca, sabla, palpabla, la sabla, pécabla, classable, mais pas sans ça. J't'ai balle, mais ça ne balle, mais danser la salsa sur la table. Mec, tu sais, si je pète ta cape, c'est que mon album m'a fait peu de valeur. Hacker et des microphones, les serres dans le tempo, j'fais du tout terrain. Allo, allo, la terre, qui m'énerve, salut les terriens. Je braque les bacs et tacle, claque les wak en tacle, craque les baffles en plaque, plaque les vaches en plaque, et les slags en platcher, nickel hatch. Casser les mics en palme, et en masque de plongée, éclater les casques en panne, le hip hop passe en apogée.
Ya. Quand j'arrive au microphone, je traumatise. On dit l'arrêt du dramatisme, mais regarde tout ce que j'inflige. On est MC qui mise sur l'apparence et sur l'instru tricote. Moi quand je prends le micro avec mes potes et les potes en pote ou alors en coupe de main. Et sache que l'accoutrement nous indiffère. On n'a que faire de dévers envers et contre toute forme de libère. Et le style bestial.
documentaire. Dès que la mer au crâne de Gossard et puis je l'enterre. J'suis vénère quand je vois tous ces pingouins, les moutons, il faut de l'air. Freestyle avec Kipoto, installé dans un studio. Libali, un ghetto parker dans le métro.
Attends, mec. Déjà, on n'a pas de studio.
Ouais.
On n'a pas de putain de fucking ghetto blaster. Et on a encore moins de métro ici à Poitiers. À la rigueur, t'as le 2B.
Y'a trop de style sur le beat dans mon mic, dans notre vie, du coup, mais j'écris mon livre. Vive les papas alcooliques que je viens coller en stéréophonie. Mais ça n'a ni que des têtes pour toi, pour 12 à 800. C'est du beatbox, du pilon, du dilon, de la bonne humeur, comme dans les sens. Anormalement addictif au plaisir musical, c'est après de rond. Mais tu connais pas la façon dont on use cet art pour fond pour créer nos propres sillons de vie. La reine, la team, Norbert, actif, hiver, comme aider, sur des tiratés, sur autant d'aider, mais pas une priorité. Boum, babababay, mon style vient d'être décollé. Il t'a parlé, mais pas pareil. Que le maquillage d'une caisse volée. Volée de plomb dans tes oreilles, mec, je te pousse dans le précipice. Pour capter mes rimes, faut le décodeur, posséder le tympan festifus. La reine de Kim Norbert sont des mecs plutôt gentils. Ne vise pas le diplôme d'entreprise et tourner famille. Il est une connerie régie paramétriquement quand la folie agit. À écouter modérément pour éviter l'hémorragie.
Grande surfatisme, ouais. Ah, ben je sais pas quoi. Non, mais moi je fais pas partie du morceau, moi. Non, moi je peux pas intervenir là-dessus, je l'ai déjà fait. Mais pas là. Non, Kim Norbert, d'arrête, ils sont. C'est pas. C'est. Quelque part, il y a une sorte de. Pour nos fly. Hein? Yeah!
À fond.
102.4 FM.